Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, je vous ai dit, la situation de notre méditation, c'est Luc chapitre 10, verset 1er. Quelques versets dans cette partie, dans ce paragraphe. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et puis voilà la suite de ce mandat d'évangéliser, mandat qui sommes les disciples, et bien d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et voilà le retour, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Voilà pour notre méditation ce matin, enfin en tous les cas sa situation. Vous souviendrez que Jésus a dit cette autre parole ou ces autres mots, ce message laissé à ses contemporains. Je vous ai dit ces choses, dira Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et un peu plus loin, il ajoutera, demeurez et vous recevrez, ça c'est la prière, demeurez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. J'aimerais parler de la joie. Vous voulez bien ? Parce que c'est quelque chose de positif. Et moi, j'aime bien le positif, même si nous sommes environnés de surtout autres réalités, mais la joie, c'est quelque chose qui fait du bien. La joie est un sentiment de satisfaction. On est d'accord. C'est parfois une vive démonstration de contentement. Hein, on le voit chez les enfants, mais on peut le voir aussi chez les personnes adultes. C'est un état de bonne humeur. Alors, quand on est dans la joie, qu'est-ce qu'on fait souvent ? On chante, hein. Alors on doit être souvent dans la joie parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on chante. Mais je sais que quelquefois, eh bien, on chante mais on n'est pas toujours dans la joie. Hein, c'est vrai, malheureusement. La joie, c'est être heureux. C'est d'être tout simplement dans le bonheur. Alors il y a différentes graduations, naturellement, dans la joie. Vous savez que la Bible cite 145 fois le mot joie lui-même, hein, sans compter ses dérivés, c'est-à-dire adverbes et adjectifs. Alors vous les compterez et vous viendrez me dire ça la semaine prochaine, d'accord ? Hein ? Il faudra lire toute la Bible et vous me le direz, d'accord ? Mais ce qui est au cœur même de la joie, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'elle réjouit. Et elle réjouit et elle crée la joie. Et souvent, dans témoins des conversions de ceux qui entendent l'Évangile, de ceux qui laissent Jésus rentrer dans leur cœur, eh bien nous voyons que souvent c'est après avoir vu ces êtres dans la tristesse et dans le désespoir, de les voir joyeux, allez, rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers lui, eh bien notre visage ne se couvre pas de honte, mais notre cœur est rayonnant, notre visage est rayonnant de joie. Ça, c'est une des caractéristiques. N'y a-t-il pas beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ? Bon, je ne vais pas repasser toute la Bible parce que j'ai autre chose, naturellement, qu'à faire des citations bibliques, bien qu'elles soient importantes. Vous savez avec moi qu'il y a joie et joie. C'est vrai. Il y a la joie naturelle, la joie humaine, celle que nous avons finalement en partage dans cette vie. Et puis la Bible nous parle qu'il y a la joie de l'esprit. avec un grand E. Et quand vous remarquez ce que la Bible nous enseigne sur la joie de l'esprit, il est au deuxième rang, la joie est au deuxième rang de la liste des fruits du Saint-Esprit que Galates nous énumère. L'amour, la joie, la paix, la joie. Et cela, naturellement, nous le savons, s'il existe une joie d'ordre naturel, humain, mais il existe aussi cette joie de l'esprit, et elle est totalement, et elle découle de notre relation avec Jésus-Christ. Voilà. Il ne peut pas y avoir de la joie de l'esprit s'il n'y a pas Jésus dans notre vie et Jésus intensément. Les joies de la vie et les joies du monde sont toujours limitées et tempérées. On dit toujours qu'il y a toujours un petit grain de sable, hein, qui, quelquefois, eh bien, la joie est fugace, c'est vrai, il faut le dire. Il y a la joie des sens, et parfois, cette joie des sens est parfois trompeuse. Mais Jésus enseigne ce qu'est la joie, la vraie joie du Saint-Esprit. Et là, dans notre texte que nous avons devant nous, vous avez remarqué, il est question de joie. On y distingue trois aspects de la joie. Il y a une joie dont Jésus nous met en garde. Ah oui. Et vous allez être surpris si je vous dis que la joie dont Jésus nous met en garde, c'est la joie du service. Je m'expliquerai tout à l'heure. Il y a une joie qu'il recommande. C'est la joie, tout simplement, d'être racheté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et puis, il y a la joie que Jésus approuve totalement. C'est la joie de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Alors nous allons voir ça ensemble, si vous voulez, bien on va suivre un petit peu dans la méditation. On va commencer par la joie du service. Vous avez remarqué, si vous tournez les yeux tout à fait vers le texte que nous avons là, lu il y a un instant, Jésus dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas. » C'est Jésus qui nous dit de ne pas nous réjouir. Mais de quoi ?« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. » C'est assez curieux. Parce que peut-être que nous aurions envie d'éclater de joie lorsque nous voyons l'ennemi à terre. Eh bien, Jésus nous dit non. Ne vous réjouissez pas autant. Jésus nous dira en quelque sorte que nous avons à en user avec parcimonie, avec prudence, avec modération, parce que cette joie-là est éventuellement dangereuse. Dangereuse, non pas pour nous, non pas pour Dieu, pardon, mais pour nous, en tant que disciples. C'est une joie exubérante du succès et de la réussite. Nous avons gagné. Nous avons réussi ceci et cela. La vue de démons chassés, certes, de malades qui sont miraculeusement guéris devant nos yeux, d'hommes délivrés de la puissance et de toutes sortes de contraintes qui les rendent profondément malheureux, de voir l'autorité de l'Évangile qui transforme des hommes et des femmes et qui les affranchit du péché, mais ça, c'est une joie qui fait exploser le peuple de Dieu. Imaginez-vous que ce matin, eh bien, là, nous soyons, mais alors une salle complètement comble, et qu'il y ait des miracles et des prodiges. Eh bien, on va repartir. On va s'en souvenir encore longtemps. Hein. Eh oui. Parce que cette joie-là, elle est quelque part, on l'attend, on la cherche, on la recherche. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à l'enseignement que Jésus veut nous donner. Voilà, c'est vrai que c'est un spectacle susceptible de nous faire bondir de joie. Hein. Des hommes qui se repentent, des malades guéris, comme nous le trouvons dans l'Évangile, et comme ça se fait encore aujourd'hui. Alors, la réaction des disciples tout excités, nous l'avons dans Luc chapitre 10 et au verset 17 à 19, il est dit, « Les 70, après la mission que Jésus leur a donnée, revinrent avec joie. » Vous voyez, c'est souligné. En disant, et je m'exprime, ils devaient sauter en l'air, les disciples, en disant, mais Seigneur, tu sais ce qui nous est arrivé? Tu nous as donné des ordres et puis tout a marché comme tu nous l'as dit. Écoute, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur répond tout simplement cette parole, mais mes amis, moi je voyais ce qui s'est passé en arrière-plan, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est vrai, de marcher sur toute la puissance de l'esprit, sur les serpents et les scorpions, et la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est vrai, ça c'était la mission que Jésus leur avait donnée. Mais ils sont arrivés dans un état d'euphorie, d'excitation, et Jésus est obligé de leur donner la suite. Quand l'évangile que nous annonçons, ici et ailleurs, rencontre un tel succès, on pourrait croire que cette joie est absolument permise. On se dit, mais c'est normal, c'est le résultat. Et qu'est-ce que nous sommes heureux de voir le réveil s'établir au milieu de nous. Qu'est-ce que nous sommes heureux de sentir le souffle du Saint-Esprit qui renverse toutes les montagnes d'opposition à Dieu et qui libère les hommes, qui leur donne la santé. Mais Jésus ne nous dit pas tout à fait cela. Il l'envisage pour son Église avec beaucoup d'inquiétude. Cependant, je vous dis, ne vous réjouissez pas de ce que. Une certaine inquiétude, car il sait combien les hommes que nous sommes sont habiles à transformer les victoires de Dieu en succès personnel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais faisons attention. Et ça, il le sait. Et que cela est lourd de péril pour, justement, ceux qui sont envoyés, c'est-à-dire vous et moi, à quelque niveau que nous ayons notre place dans l'œuvre de Dieu. Jésus entrevoit déjà combien le cœur de l'homme, même le plus fidèle de ses serviteurs, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, peut être emporté par l'orgueil. La vanité et la satisfaction de soi. Et Jésus sait aussi l'histoire. Il connaît l'histoire, Jésus, mieux que nous la connaissons. Et il sait que la chute des anges, la corruption de la terre a commencé dans le cœur de Lucifer, ange de lumière, et que c'est bien par orgueil spirituel qu'il est tombé. Ouais, orgueil spirituel. Et c'est pour ça qu'il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Alors il y a deux propositions autour de cette question, parce que c'est vrai que Jésus le voyait tomber du ciel quand il est monté à la croix, et comme nous le dit Colossiens chapitre 2, que, eh bien, il a triomphé de la puissance des autorités en les vainquant à la croix du calvaire, ça c'est sûr qu'il voyait tomber du ciel l'adversaire. Mais je pense qu'il y a une autre histoire dans la Bible où il nous est montré que sous le couvert finalement d'une image ou d'une représentation sensible à notre connaissance, à notre compréhension, l'histoire de Lucifer dans Ézéchiel, on peut tout simplement revoir ce texte pour nous montrer que faisons attention, nous sommes des hommes et n'allons pas nous prendre pour des anges. Et au chapitre 28, il est dit ceci dans ce texte. Ça s'adresse à un homme, mais derrière, nous comprenons qu'il y a là la vision finalement de ce qui s'est passé dans les premiers âges de la création. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit « Je suis Dieu ». Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et puis un peu plus loin, sans rentrer trop dans les détails, au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il est bien question d'une vision qui, c'est vrai, peut se comprendre au niveau de la vie sur la terre, mais également une transposition dans le ciel. Tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, dit Dieu. Ouais. Et là, c'est une leçon dont l'Église, dont les serviteurs de Dieu ont besoin de tenir compte. Parce que ça s'est fait, et hélas, ça se fait encore et ça se fera. Et Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas. Chez Lucifer, il y avait de la beauté, il y avait un étincellement digne du ciel, une sagesse, une intelligence. Et Dieu reproche à cet ange, mais qui n'est qu'une créature, hein, faut pas croire. Hein. Tu t'es pris pour Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu t'es assis sur le trône de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Et je crois que là, c'est le danger que Jésus est en train de stigmatiser quand il nous parle de ceci. L'homme ici-bas, et y compris les enfants de Dieu, l'homme ici-bas est si peu capable de supporter la gloire et une quelconque gloire. Regardez autour de nous dans le monde des choses de la vie. Quand on est vedette, quand on est acteur, quand on est politique, quand on a un rayonnement national ou mondial... Les dents, c'est pas de choses, hein. C'est peu de choses. Et nous voyons que, à leur retour de leur mission, au retour de mission, les disciples n'ont retenu que le miraculeux Ils n'ont retenu que le merveilleux, que le surnaturel, et ils en avaient oublié le message que Jésus leur avait donné et confié. Et ce message était tout au fond, tout autant, non pas de chasser les démons, de guérir les malades et faire les choses extraordinaires, ça faisait partie du programme. Mais ils en avaient oublié que le mandat que Jésus leur avait donné, c'était un mandat qui comportait un message de paix, un message de patience, un message imprégné de souffrance, de sacrifice, de renoncement, de salut, de repentance. Et c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'à partir que, du moment où nous prenons une part, finalement, de ce que Jésus nous a demandé, mais que nous voulons oublier le reste, c'est là où nous tombons dans les pièges. Et Lucifer, avec toute la splendeur qui était la sienne, il ne s'appelle pas encore Satan, hein, mais il s'appelle Lucifer, ange de lumière, mais aveuglé, imbu, alors à ce moment-là, il n'oubliait qu'il n'était qu'une créature, et il s'était pris pour le Créateur. Et nous voyons que les disciples ont été éblouis, ils ont été subjugués par le caractère visible et immédiat, au risque pour eux-mêmes, eh bien là, d'en perdre leur équilibre spirituel. Et la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est avant tout l'équilibre. Ce n'est pas de partir dans un sens ou dans un autre, c'est de garder l'équilibre. Nous sommes appelés à une vie spirituelle, certes, mais une vie spirituelle qui est faite de foi et qui repose sur l'humilité. Et ça, il n'y a pas à contourner la chose. Le premier fondement, c'est certes la foi, mais l'humilité et la dépendance de Dieu. Alors quand ils se sont vus toucher les malades, quand ils se sont vus chasser les démons et que finalement sous leurs doigts, eh bien, les choses se réalisaient, ils se sont dit, mais nous sommes des hommes super. C'est formidable d'arriver à cela, et c'est vrai, hein, ça peut faire tourner la tête. Hein. Quand un beau jour, vous vous levez le matin et puis vous chantez là devant de votre glace, puis vous vous apercevez que vous avez une voix de ténor, vous dites, mais je vais faire carrière. Enfin, elle n'est pas là la carrière encore. Vous commencez à vous enregistrer, vous commencez à vous réentendre en disant, mais qu'est-ce que j'ai une voix formidable. C'est pas défendu de rêver, hein, mais il faut rester les pieds sur terre. L'orgueil spirituel, nous dit Jésus, dénature souvent les plus belles figures chrétiennes. Et en disant cela, c'est pas parce que ça vient, mais parce que c'est déjà arrivé. Que de chutes retentissantes, d'églises que l'Église n'a pas connues dans son histoire, des évangélistes si populaires qui parlaient bien, d'orateurs à la parole puissante et même à la parole envoûtante, où les gens là-haut se disaient « Mais qu'est-ce qu'il parle bien cet homme, et c'est formidable !» De ministères de guérison et de toutes sortes de choses, finalement, eh bien, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous savez, le succès gonfle à l'extrême. Et ce qui a parfois ouvert la porte à toutes sortes de déviations, à toutes sortes d'exaltation, de fanatisme, de division, de controverses doctrinales, l'élévation de certaines personnalités de premier rang, qu'on a suivi, qu'on a acclamé à la place de Jésus-Christ. Parce que finalement, les serviteurs, ils ne doivent pas s'annoncer eux-mêmes. On n'a pas besoin de montrer une carte de visite en disant « voilà mes états de service », d'afficher à l'entrée de nos églises la photo du pasteur. Ça vous ferait plaisir? Non? Non, bah c'est bien, vous avez raison. Hein, puis moi, j'ai pas envie. Et de dire « voilà, j'ai fait le tour du monde, je suis allé dans tel pays, etc. » Vous vous rendez compte, je suis quelqu'un. Eh oui, mais vous savez, on y vient. Hein. Ça vous fait sourire, mais vous savez, on y va à grands pas. Humilité, modestie, parce que on a souvent acclamé l'homme et on en a oublié Jésus. Le message a dépassé celui qu'on était chargé d'annoncer, et celui qu'on est chargé d'annoncer, c'est Jésus. C'est pas monsieur le pasteur un tel ou monsieur l'évangéliste un tel, c'est Jésus-Christ. Point. Ça s'arrête là. On dit quelquefois dans les rangs des églises, hein, mais son ministère est si puissant. Et puis il parle si bien. Et puis il a une telle prestance sur l'estrade. Vous vous rendez compte? Ah ouais, c'est Moi, je suis prêt à faire 500 kilomètres, 1000 kilomètres. Il y a des gens qui traversent l'Atlantique pour aller voir d'autres qui vont jusqu'au bout du monde. Mais c'est un homme, vous vous rendez compte? Mais c'est formidable. Et quand la joie est saine et sainte du service, quand elle sort de son cadre, elle devient vite une intoxication, une pollution, car tôt ou tard, elle conduit à l'amour de la louange pour soi-même, à l'égoïsme ou à l'ego, à la suffisance, à l'indulgence de soi, à l'ambition d'occuper la première place, voire l'arrogance, et on jongle avec les choses de Dieu comme si elles étaient nôtres, mais rien n'est à nous. C'est Dieu qui nous a tout confié. Alors n'allons pas dire que c'est notre propriété, n'allons pas dire que c'est mon talent, que c'est mon ministère, que c'est mes dons, mais il n'y a rien à nous. C'est dans l'humilité. Et Jésus voit un petit peu ses disciples arriver en disant, mais Seigneur, c'est formidable ce que tu nous as demandé de faire, et ça s'est réalisé. Et Jésus leur dit, attention, du calme et du sang-froid, si je peux me permettre. Calmez-vous, on baisse un peu la pression, ça surchauffe. Parce qu'on peut être enflé du plaisir d'être quelqu'un. Nos succès peuvent devenir tout simplement notre sépulture spirituelle. Et ça, c'est pas faux. La fin, hélas, est fréquemment la même chez ceux qui se sont pris la tête. Ils sont tombés parfois dans de grossiers péchés qui occasionnent l'étonnement et une grande tristesse à ceux qui sont redevables finalement de leur bénédiction, enfin de la bénédiction divine qu'ils ont reçue à travers ces hommes. Et quelquefois on s'est dit, mais comment cet homme a-t-il pu tomber? Lui qui était au devant des foules, lui qui a prêché à des milliers et des milliers de personnes, mais comment a-t-il pu tomber dans des choses pareilles? Ben oui, vous savez pourquoi? Parce que ce n'était qu'un homme. Et quelquefois, je dois le dire, c'est pas toujours l'homme lui-même, mais c'est tous ceux qui sont autour qui font mousser. Vous comprenez? Ah oui, vous savez, notre pasteur, il est ceci, il est cela, il est bien, il est magnifique. Alors ne me faites pas trop de compliments si vous voulez me garder. Moi, je vous parle franchement, parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Non, mais c'est vrai. Mais quelquefois, on a vu des hommes de Dieu éminents, avec des ministères formidables, et à un moment donné, hop, ils sont tombés comme un éclair, là. Ouais. Parce que bon, ils auraient peut-être voulu rester humbles, mais on a mis toute une organisation, marketing autour d'eux. On a fait toutes sortes de choses, et on a dit, voilà, ce sont des ministères internationaux. Et puis à un moment donné, ils ont dégringolé comme les autres, parce que ce n'était que les hommes. Et alors qu'on leur a répété continuellement, vous êtes formidables, vous êtes ceci, vous êtes cela, on ne peut pas vivre sans vous. Alors ils ont fini par y croire. Et puis c'est là où... Mais méfions-nous, Méfions-nous, parce que tout ça, Jésus nous le prévient. Il nous dit, attention, ça peut être grave. Quand on regarde un petit peu les enseignements du Nouveau Testament et la circonspection de Paul au regard de son puissant ministère, vous savez ce que Paul dit à un moment donné? On peut le lire, ça peut être instructif. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, et au verset 27, il dit ceci, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Eh oui, l'apôtre Paul, il se donnait une rigueur, il se disait, c'est pas toujours facile, hein. Il se disait, mais bon, j'ai peut-être prêché aux autres, mais moi, il faut que je me tienne. Et c'est pas toujours facile, ça. Prudence dans le choix des nouveaux serviteurs de Dieu, frères et sœurs. Oui, prudence dans le choix des nouveaux serviteurs de Dieu, des jeunes. Parce qu'on dit, comme nous l'avons lu ce matin, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson parce qu'on est peu nombreux. Et c'est vrai, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais faisons attention à ceux que l'on envoie. Parce qu'on peut aussi avoir des surprises et on peut faire des erreurs en mettant des serviteurs de Dieu en place alors qu'ils auraient besoin, non pas de partir tout de suite, mais d'être formés. Et quand je dis formés, ce n'est pas une formation théologique. Ça, c'est une base, c'est nécessaire. Mais formés à la vie. Apprendre à savoir ce que c'est de travailler, tenir un marteau ou un pinceau, ou éventuellement taper sur un clavier, enfin peu importe, un travail. Savoir ce que c'est la valeur de l'argent. Savoir ce que ça veut dire, de pouvoir se lever le matin, et puis de partir à 8h, et puis de rentrer quelquefois à 6h le soir. Ça fait partie de la formation. Et dans 1 Timothée chapitre 3 et au verset 6-7, il est dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti d'abord. De peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable, ils font aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Alors, s'il doit recevoir un bon témoignage du dehors, il doit en recevoir un bon de l'intérieur d'abord, hein, on est d'accord. Hein. Si on veut prétendre rentrer dans le ministère, il faut d'abord que l'Église nous reconnaisse. C'est comme ça que Paul a appelé Timothée à Lystre. Quand il était le chercher, il nous a dit que l'Église rendait un bon témoignage de lui, d'un garçon fidèle, d'un garçon sérieux. C'était un adolescent, un jeune homme. Hein. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous avez vu ce qui est marqué? Alors c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut former des jeunes. Il faut envoyer des jeunes dans la mission, dans la moisson. Mais il faut faire attention qu'ils soient aptes. Parce qu'ils vont être les premiers à être fusillés, vous savez. Ils vont être les premiers à tomber, dans l'orgueil entre autres, parce qu'il est question de l'orgueil. Protection élémentaire. Je pense qu'il faut être vigilant. Vous savez où la meilleure formation se trouve pour un jeune serviteur de Dieu, un jeune homme? C'est d'abord de commencer à écouter son pasteur tranquillement, sans trépigner dans les chaises. Moi, ça a été ma formation en tous les cas. J'ai écouté pendant des années, celui qui m'a amené au ministère, celui qui m'a formé au ministère, et attendre, parce que là, à ce moment-là, en entendant, on s'imprègne. Puis il y a une démonstration de fidélité, de régularité, de ponctualité. Vous allez me dire, c'est des choses élémentaires, mais c'est comme ça qu'on fait des ouvriers. On peut toujours les envoyer en faculté de théologie, mais il faut qu'ils restent pratiques. Il y a une maladie, quelquefois, dans notre monde évangélique. Elle a deux noms, mais si vous en parlez à votre médecin, il dira qu'il ne connaît pas. C'est la pupitrose et la préchéite. Hein? Ça vous fait rire? Bah pourtant, c'est une grave maladie. Hein? Ah oui. Ce sont deux maladies de l'estrade. Oui, c'est ça. Qui se décèlent par de fortes démangeaisons et de fièvres intempestives. Alors je dis attention, danger. Et ça, c'est de la responsabilité des serviteurs de Dieu équilibrés, des hommes mûrs, de dire il y a un ministère, mais il faut qu'il puisse y avoir un accompagnement et pas laisser les gens dans la nature. Autrement, ça risque de mal se passer. Et non seulement ça risque de mal se passer pour le futur candidat au ministère, mais quand il sera en charge d'une église, il risque de la mettre en miettes. Et croyez bien que ça fait partie de notre souci permanent et quelquefois de nos pleurs de voir de belles églises qui aujourd'hui sont coupées en morceaux, donc divisées. Ça, c'est la première joie, Jésus nous dit. Cependant, ne vous réjouissez pas. Et je viens d'exposer éventuellement ce qui pourrait, eh bien là, en avoir les conséquences. Si cette joie-là dont nous venons de parler peut nous conduire à notre perte, il y en a une autre que Jésus recommande. C'est la joie d'être racheté, d'être un racheté. Et ça, c'est pour tout le monde, chacun d'entre nous. Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas, mais il dit un peu plus loin, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est plus important que le service. Bien que le service soit une chose très importante. Mais si le service doit nous amener à nous perdre, hein, alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est une question de logique. Cette joie-là est moins excitante parce que moins visible. On la porte à l'intérieur de notre cœur. Il n'y a pas de miracle là. Enfin, il y a un miracle, mais c'est un miracle personnel, naturellement. Donc moins recherché, qu'on oublie très vite. Tous les succès temporels, authentiquement spirituels, n'ont de comparaison avec la joie de l'éternité. Je suis sauvé et c'est mon bonheur. Cette joie ne présente aucun danger, puisque Jésus la recommande. Or, pour bien la comprendre, il faut d'abord en savoir le prix. Et le prix de cette joie, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire le don de Dieu. Il faut non seulement en comprendre le prix, mais il faut en savoir le sens de cette joie. C'est-à-dire, c'est vivre au quotidien l'expérience de la puissance du salut. C'est pas une affaire d'une fois, mais c'est une affaire de toujours et d'une permanence. Il faut en comprendre que Jésus a guéri nos âmes malades. Et c'est aussi un sujet de joie. Il faut comprendre également que la vie d'esprit est en nous, Christ est en nous. Il faut comprendre que l'affranchissement qui fait du pécheur converti un homme libre. Et aujourd'hui, nous pouvons dire « Je suis libre par le sang de Jésus-Christ ». Si nous voulons y réfléchir à cette joie du salut, la joie d'être un rejeté que Jésus recommande, eh bien, il faut faire une rétrospective, si vous aimez mieux, en nous posant la question « Qu'est-ce que nous étions avant ?» Que sommes-nous devenus par sa grâce ? Nous étions simplement des hommes perdus et nous n'avions aucun mérite. Eh oui. Jésus est venu jusqu'à notre misère et nous a appelés. Et nous entendons ces paroles qui sont les nôtres, que nous avons entendues, mais qui sont inscrites dans l'Évangile en lettres de fait, quand il dit à cette femme « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Là, c'est la joie du racheté. Plus aucune condamnation. Puis nous pourrons multiplier avec d'autres textes à l'infini. Alors, dès lors, prenons la mesure d'où nous avons été retirés. Nous ne pouvons que nous réjouir humblement, frères et sœurs, de l'enfer auquel nous avons échappé et du ciel qui nous est réservé. C'est ça ce qui est formidable. Et tous les jours, je dois me le dire. Et les cantiques. Pourquoi chantons-nous des cantiques? Parce que ça fait partie du programme, de la liturgie. Nous chantons des cantiques pour nous remémorer l'œuvre magnifique que Jésus a accomplie pour nous. Et en chantant les cantiques, eh bien nous le transmettons aux autres et nous le partageons ensemble. Nous chantons la gloire de Jésus, nous chantons la mort de Jésus, nous chantons sa résurrection, nous chantons sa glorification, nous chantons le ciel. Eh oui, c'est ça. Alors nous pouvons nous réjouir de l'enfer auquel nous avons échappé et nous nous réjouissons encore plus, finalement, du ciel qui nous est réservé. Ça, c'est merveilleux. Une expression pleine d'espoir résume la certitude de nos cœurs. Je suis sauvé. Jésus-Christ est mon sauveur. Paul dit et ajoute ceci, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, il ne se glorifiait pas des miracles, il ne se glorifiait pas des visions que Dieu lui avait données, il ne se glorifiait pas de cette intelligence de théologien qui était la sienne, par révélation, mais il se glorifiait tout simplement de la croix de Jésus-Christ par lequel, eh bien, il était sauvé. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs, que vos noms sont écrits dans le livre de vie, ce matin. Vous savez, ce matin, nous aurions pu, les uns et les autres, mais on a encore le temps, là, pour la Sainte Cène, tous nous lever et te dire, Seigneur, chacun à notre manière, avec notre vocabulaire, et avec le langage qui est le nôtre, mais de tous dire, mais Seigneur, je te bénis parce que je suis sauvé, et je suis là ce matin. C'est ça ce qui est important. Alors pourquoi si peu de louanges? Vous ne croyez pas que Jésus vous a sauvé? Il a pardonné vos péchés? Il a transformé votre vie? Alors pourquoi vous ne lui dites pas? Ah, parce que je suis timide. Parce que j'ose pas. Puis qu'est-ce qu'on va penser si j'ouvre la bouche? Ben justement. Vous êtes dans une église, moi je sors d'une église et puis certains d'entre vous, il y avait que le prêtre qui parlait. On n'avait pas droit au chapitre, nous. Mais on est dans une église où vous pouvez parler. Vous pouvez prier le Seigneur publiquement, vous pouvez louer le Seigneur publiquement, vous pouvez l'adorer, mais profitez-en. Ah, je suis en train de... Hein? Ça va? Oui, vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas vous enlever cette liberté quand même. Après, vous direz, le pasteur, il a confisqué, on ne peut plus louer, on ne peut plus prier, tout ça. Eh non, mais profitez-en de dire merci, Seigneur. Eh oui, on a nos petits soucis, on a toutes sortes de choses qui sont là en train de parasiter, hein, c'est vrai, nos cœurs. Mais dites quand même, merci, Seigneur, tu m'as sauvé, c'est formidable. Réjouissons-nous. Je suis sauvé, c'est mon grand bonheur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux avec cette sainte crainte que jamais le péché ne nous ramène en arrière, au point de voir notre nom effacé du livre de vie. Parce que c'est la tristesse qui nous tire en arrière. Ce sont nos inquiétudes, ce sont nos craintes, ce sont nos peurs, ce sont quelquefois nos difficultés relationnelles que nous pouvons avoir et que nous ne savons pas toujours réparer. Mais le pardon de Dieu, il existe aussi. Pour vous? Pour tout le monde? Alors, n'allez pas laisser, alors que votre nom est écrit en lettres de feu sur le grand livre de Dieu que l'on appelle le livre de vie, eh bien, ne laissez pas l'encre du ciel, eh bien, finalement, eh bien là, s'évanouir, ou tout simplement se ternir, s'effacer. Bénissez le Seigneur, Louez le Seigneur parce que vous êtes sauvés, parce que nous sommes sauvés. Troisième point. Ça va, vous suivez? C'est bien, hein? Réjouissez-vous. Alors, troisième point. Maintenant, la joie que Jésus approuve. La joie que Jésus approuve dans notre texte, c'est celle qui se réjouit et accepte totalement la volonté de Dieu comme bonne, agréable et parfaite. En ce moment même, nous dit le texte, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Qui n'a jamais connu, frères et sœurs, je parle de la vie spirituelle, ce sentiment exquis? Est-ce que vous avez déjà senti, à un moment ou à un autre, une visitation profonde du Saint-Esprit, au moment de votre conversion ou après? Ou là, vous avez été transporté. Vous avez été visité d'une manière admirable et vous en avez gardé un souvenir impérissable parce que vous en souvenez encore aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé? Non? Ouais, bien sûr. Ça m'arrive au moins 3 fois par jour. Vous allez dire, quel pasteur, hein? Ben, si je vous prêche sur la joie, c'est pas que je vais vous faire pleurer ce matin, hein? Faut pas compter sur moi, hein? Oui, mais on a eu des moments comme ça où on s'est senti porté, visité, on a senti cette chaleur. Ah ouais, c'est quelque chose de formidable, ça. Et Jésus a tressailli de joie. Et vous avez certainement tressailli de joie quand vous avez pris conscience que Dieu vous aimait. Alors que vous sous-estimez, que vous étiez en disant « Je suis perdu, je ne vaux rien, je suis misérable, je me sens sale. » Et là, il y a eu comme une onction qui est venue sur vos vies, où Dieu a dit « Mais je t'aime. » Et là, on l'a senti, c'était quelque chose de formidable. Vous l'avez vécu, j'en suis sûr. Et je l'ai vécu aussi. Et ça nous a beaucoup aidé quand on y repense, et ça nous aide encore quand on se dit « Mais quelle visitation un jour tu m'as donnée, Seigneur. » Et puis il y en a eu d'autres fois, naturellement. Hein? Des moments esquis. L'âme, à ce moment-là, est émue jusqu'à être transportée jusqu'au ciel. Nous restons sur terre, mais c'est quelque chose, hein, cette joie ineffable de la grâce de Dieu. Une joie intime, une joie d'une grande force qui illumine soudain notre route parce que Dieu vient de nous montrer ou vient de nous révéler quelques secrets de notre avenir ou tout simplement qu'il nous aime et de sa volonté pour nous. Et là, nous sommes heureux. On voudrait que ça ne finisse jamais. Ah oui, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ça a été ça pour quelques-uns. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puis là, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Ouais. C'est extraordinaire, ça. C'est vrai qu'on aurait besoin de faire tout à nouveau ce genre d'expérience. Moi, je le demande pour mes frères et mes sœurs qui ploient, qui sont en train de marcher sur cette route difficile de la vie. Ils auraient besoin. Il faut que vous y croyez que Dieu est capable de vous le donner encore. Ouais. Faut y croire, hein. Ça, c'est vrai. On sait intuitivement dans ces moments-là ce que le Seigneur va faire. C'est vrai que ses plans sont encore voilés. Leur lueur nous illumine. C'est un encouragement quasi indéfinissable. Et on ne sait pas l'expliquer. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a réjoui profondément. Vous avez remarqué le verbe qui est employé? Il nous est dit que Jésus tressaillit en son esprit. Dans l'esprit, c'est-à-dire la sphère, comme on a parlé dernièrement, la sphère qui nous met en contact avec Dieu, avec le spirituel divin. Puis notre âme, en ce moment-là, ressent finalement dans ses sentiments et dans ses émotions quelque chose de formidable, et on est bien même dans notre corps. Ouais. Certains l'ont vécu au cours même d'une maladie physique, au moment même où ils ont été guéris. Ils ont senti quelque chose qui descendait sur eux. Et là, ils ont, comme la femme à la perte de sang, elle sentit au même instant qu'elle était guérie. Joie ineffable. Joie du Saint-Esprit. C'est soit une chaleur, c'est soit autre chose. Vous avez fait la différence entre tressaillir et frémir, hein? J'espère. C'est deux mots différents, hein? On ne dit pas « je frémis de joie ». Non, on dit « je tressaille de joie ». Oui. Et cela nous amène à faire confiance au Seigneur, à nous rapprocher encore plus de lui sur le chemin. Et même si ce chemin ne manquera pas d'être difficile, mais nous savons qu'à travers cette visitation, comme Jésus l'a connue, bien désormais, au fond de notre cœur, on sait qu'il sera avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Il ne t'abandonnera pas, mon frère et ma sœur. Il ne te délaissera pas. Parce que le Seigneur est le Seigneur et il t'aime. Et c'est ce qu'il veut te dire ce matin. Ouvre ton cœur au tressaillement de l'esprit. Et le chemin est difficile. Et quelquefois, le chemin nous le donne avant. Un chemin difficile. Oui, c'est pas après, c'est souvent avant. Alors on vit cette extase, on vit ce moment, mais alors où nous sommes remplis du Saint-Esprit dans un culte, dans notre maison, dans une réunion de prière ou dans n'importe quel endroit. Et on se dit, mais c'est bon Seigneur, qu'est-ce que ça va être le ciel hein? Imaginez-vous que le ciel, ça sera toujours ça. Ça ne vous donne pas envie d'aller au ciel? Parce que ça sera toujours ça. On sera dégagé de notre corps. On sera dégagé de toutes nos contraintes, de toutes ces choses qui nous enserrent comme dans un étau et qui nous broient et qui nous rendent malheureux sur cette terre. Mais de l'autre côté, il n'y aura plus ça. Ça sera le tressaillement pour l'éternité. Parce qu'on sera doté finalement eh bien, d'une constitution qui pourra supporter cette gloire. On sait que le Seigneur est avec nous. Il nous prépare peut-être parfois dans des temps d'épreuves qui vont venir, et c'est pour ça qu'il nous fait sentir avant sa joie en disant mon fils, ma fille, eh bien, tu vas passer par un tunnel difficile, mais je suis avec toi. À l'entrée de ce tunnel, eh bien, je suis avec toi et je te fais goûter ma joie magnifique. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous connaissez, hein? Ouais. Dans le livre d'Osée, le prophète, cette belle parole, moi c'est une des plus belles paroles de la Bible, mais elles sont toutes belles, alors je ne sais plus lesquelles pour choisir, mais celle-ci est belle. Écoutez, c'est Dieu qui dit ça à Israël, parce qu'il aime Israël, comme il aime ses enfants. « Je lui donnerai la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. » C'est beau la jeunesse, hein? C'est la fraîcheur. C'est la joie, c'est l'insouciance. Mais il est dit, je lui donnerai comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Mes frères et sœurs qui souffraient ce matin, croyez à la joie du Seigneur, la joie de l'Esprit. Moi je suis venu vous le dire, pour vous dire, faut pas baisser les bras. Vous êtes malade, on vous a fait du mal, on vous a piétiné, on vous a humilié, mais le Seigneur pense à vous. Il pense à vous. Et il va faire quelque chose pour vous. Et moi, je suis venu pour vous le dire, de la part de Dieu. Une porte d'espérance. On ne sait pas ce qui va arriver demain, ou dans un mois, ou dans un an. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Enfin, c'est notre problème, mais ce n'est pas le problème de Dieu, lui, il va s'en occuper. Mais toujours est-il que cette expression, elle chantera comme au jour de la jeunesse, de sa jeunesse. Ça veut dire que finalement, eh bien, quand on chante, c'est qu'on est dans la joie, et on est dans la joie, non pas pour n'importe quoi, mais on est dans la joie parce que Jésus nous a visités. Et il va nous visiter. Il va nous délivrer. Et Jésus, en cet instant, tressaille. Pourtant, la route de Christ est particulièrement déconcertante. Parce que là, il n'avait certainement pas à se réjouir. Bien sûr que les démons étaient chassés par ses envoyés, par les disciples qu'il avait mandatés. Mais quand on regarde le contexte, et que Jésus se dirigeait tout petitement, mais il se dirigeait sûrement vers la croix, il n'y avait pas à se réjouir. Mais il a été réjoui à ce moment-là. Parce que sa prédication était trop souvent repoussée. Les villes ne se repentaient pas malgré la prédication qu'il apportait, malgré les paroles magnifiques qu'il donnait, malgré les miracles qu'il faisait. Les autorités les religieuses qui, normalement, les premières, auraient dû l'accueillir, le haïssaient. Ça, c'est pas quelque chose qui nous réjouit, naturellement. On se moquait de Jésus. On le repoussait. En somme, tout était fait pour, eh bien, étouffer l'utilité de sa mission. Et Jésus, à ce moment-là, aurait pu douter. Et au lieu de douter, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit en espérance. Il tressaille de joie. Or, c'est devant ce sombre constat d'échec apparent, parce qu'il se dirige vers la croix, que Jésus a connu cette grande joie qui lui découvre le véritable sens de la volonté de Dieu. Quand il dit ces paroles que nous avons lues tout à l'heure, « Je te loue, Père Seigneur, de ce que tu as caché ces choses aux sages, et aux intelligents. » Parce que Dieu ce que demande, c'est pas d'avoir, bien sûr d'avoir la sagesse et d'avoir l'intelligence, mais celle du cœur. Pas seulement celle de notre matière grise, celle du cœur, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et Jésus tressaille, parce qu'il sait qu'une poignée de pauvres pécheurs, qu'un péager, quelques hommes de condition modeste, quelques femmes qui le suivent pour le servir, et voilà ce qui fait la joie de Jésus. Ce n'est pas les choses grandes, ce n'est pas les choses grandes de ce monde, mais c'est ce petit noyau qui est autour de lui, comme un embryon qui va enflammer la terre et qui va faire des millions et des millions et peut-être même certainement des milliards d'êtres qui connaîtront la joie du royaume de Dieu. C'est ça ce qu'il réjouit. Et il le voit à l'avance. Et Paul l'écrira en disant, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de riches, ni beaucoup de ceci, ni beaucoup de cela. Mais cette petite communauté, cette petite compagnie insignifiante va remplir la terre entière du message de la vie. Et Jésus se réjouit de cela, non pas de ce que les démons soient chassés et les malades guéris, mais de ce que les âmes sont déjà. La terre entière est en train de se préparer à entendre le message qui va sauver l'humanité. Jésus, à ce moment-là, tressaille de joie lorsqu'il découvre des cœurs assoiffés de vérité, des âmes soupirantes après le salut. Alors, il entrevoit la puissance spirituelle qui va bouleverser le monde. Et il bénit le Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses. Il loue le Seigneur pour sa sagesse infinie et accepte cette volonté de Dieu qui va passer par la croix et où il recevra pour compagnons non les plus grands du monde de son temps, mais les plus petits des hommes, simples comme des enfants. C'est pour ça qu'il dit « Je te loue de ce que tu l'as caché aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants, un publicain, une samaritaine, etc., etc., aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Cette joie de Christ a une valeur inestimable, car elle s'allie toujours avec un caractère doux, humble et prompte à accepter, à tout accepter, même si ce chemin s'appelle sacrifice, même s'il s'appelle obéissance, projet abandonné, futur incertain, quand le cœur est prêt à déposer sur l'autel ce qui faisait jusqu'alors notre raison de vivre, nos amours, nos passions, aussi pieux soient-ils, je voudrais le souligner au passage, le Seigneur en échange nous fait goûter à cette joie incomparable, unique, sublime, aux avant-goûts célestes. Jésus tressaillit dans son esprit. Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Et Jésus, au cœur même finalement de l'épreuve redoutable qui le prépare à la mort, il dira ceci parce qu'il accepte la volonté de Dieu. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, qu'est-ce qu'il est dit après? Alors un ange. Et moi j'ajouterais, c'est pas dans le texte mais je le dis, un ange de joie. Un ange de joie lui apparaît du ciel pour le fortifier dans l'épreuve. En conclusion, je finis. Souvenons-nous qu'au cœur de la vie de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, en Dieu, il y a la joie de l'Esprit. La joie du Saint-Esprit. Joie qui conseille sagesse et prudence devant le succès et au service de Dieu. C'était la première proposition que nous avons vue ce matin. Joie recommandée par Jésus de se savoir racheté, de se savoir sauvé, et joie approuvée par Jésus, c'est-à-dire faire toute la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, et je voudrais vous dire, soyez dans la joie de l'Esprit. Que Dieu nous visite. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole va bien au-delà de la bouche, Seigneur, d'un homme. Ta parole, Père éternel, va bien au-delà, Seigneur, de nos maladresses de langage. Ta parole est une puissance de joie, une puissance qui réjouit les cœurs, qui réjouit les esprits. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier de ce que tu nous as enseigné, Seigneur, dans cette parole. Qu'en tous les cas, nous avons besoin d'une chose, de savoir et de nous rappeler que toi, tu es créateur et nous ne sommes que créatures, petites créatures, et que nous devons rester humbles. Parce que, Seigneur, si nous nous élevons, nous serons abaissés, mais si vraiment nous nous tenons dans l'humilité devant toi, il viendra un temps, un jour, où nous serons élevés dans le ciel de la gloire. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pour ton peuple en général, ton peuple, Seigneur, en effet, Seigneur, qui est dans notre pays. Je te demande, Seigneur, pour ton peuple, dans cette ville à Redon, dans cette région. Je te demande, Seigneur, que tu nous gardes, en effet, Seigneur, à vivre avec la joie du Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, si nous avons quelques succès, quelques réussites, de ne pas nous prendre la tête, de ne pas penser, Seigneur, que finalement nous sommes des êtres ou des hommes supérieurs, mais que tout est don et grâce, et qu'ainsi, Seigneur, tu nous gardes dans la modestie, tu nous gardes dans la discrétion, tu nous gardes, Père éternel, dans l'humilité, parce que si tu veux nous confier encore davantage, eh bien, Seigneur, nous pouvons dire comme Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Et à ce moment-là, Seigneur, si nous diminuons, alors tu pourras nous donner, tu pourras nous doter, Seigneur, de choses formidables et merveilleuses, qui, certes, nous réjouiront, certes, parleront de la gloire de Dieu, mais qui ne nous feront jamais tourner la tête. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour le service que tu as donné aux uns et aux autres. Garde-nous humbles. Merci, Seigneur, pour la joie du racheté. Nous attendons le ciel. Et merci, Seigneur, de faire toute ta volonté, parce que parfois il y a de l'amertume. Mais Seigneur, même quand il y a de l'amertume, c'est peut-être là où tu nous dévoiles, comme Jésus l'a vécu. Eh bien, Seigneur, les plus grandes joies du ciel qui viennent et qui descendent sur notre cœur pour nous soutenir et pour nous montrer que Dieu n'est pas contre nous, mais que Dieu est avec nous et qu'il nous aime. Amen. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange et gloire à toi. Nous te bénissons. Bénissez le Seigneur quelques instants avant le repas de Sainte-Seine. Allez-y, frères et sœurs. Les uns et les autres, nous pouvons ouvrir la bouche et te dire simplement « Merci, Seigneur ».